France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Au téléphone sonne ce soir la revanche du vélo en temps de grève. Le vélo et les nouvelles mobilités en général quand l'imagination prend le pouvoir pour aller d'un point A à un point B. En Ile-de-France, vu le chaos généralisé qui règne depuis plus d'une semaine, arriver à bon port est devenu un exploit. Conséquence de la grève contre la réforme des retraites qui paralyse les transports publics et notamment la SNCF et la RATP, vous êtes nombreux à vous être lancés dans le covoiturage, l'autopartage, à vous être mis à la marche à pied, à la trottinette ou à la bicyclette avec plus ou moins de bonheur.
J'ai même pas de vélo à la maison, j'ai emprunté celui-là. Et après, il faut s'adapter, il faut trouver les voies cyclables. Quand on n'a pas l'habitude, c'est un peu plus difficile de se situer bien. Et il y a beaucoup de monde.
Alors ce soir, on va voir justement où nous en sommes de toutes ces nouvelles formes de mobilité qui ne sont pas toutes une bénédiction pour l'air que l'on respire, loin de là. Quand il n'y a ni train, ni bus, ni tram et que les courses en taxi ou en VTC se multiplient, la pollution explose elle aussi. Mais tout n'est pas négatif dans ces alternatives. Le retour en force du vélo permettra peut-être à certains de garder cette habitude une fois la grève terminée. D'ailleurs ce soir, on va faire le point sur ce mode de déplacement un petit peu plus d'un an après la présentation du plan vélo et alors que la loi d'orientation des mobilités est sur le point d'être promulguée. On s'arrêtera au passage sur les résultats de l'enquête du réseau Action Climat, dont les conclusions ont été publiées cette semaine, car nos modes de transport influent bien sûr grandement sur la qualité de l'air. Bref, vous l'avez compris, on va réfléchir à nos modes de déplacement du quotidien ce soir. Avec nous pour aborder tous ces sujets, Olivier Razemont, bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste des mobilités, auteur du fameux blog L'Interconnexion n'est plus assurée sur le site du journal Le Monde, auteur de plusieurs ouvrages. Je citerai par exemple la chronique impatiente de la mobilité quotidienne aux éditions Rue de l'Échiquier, mais aussi la tentative du bitume et le pouvoir de la pédale. Louis Bellenfant, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur du collectif Vélo Île-de-France. Lorelai Limousin, bonsoir.
Bonsoir.
Responsable des transports au réseau Action Climat. Et bien sûr, Corinne Lepage, rebonsoir.
Rebonsoir.
Ancienne ministre de l'Environnement, à l'origine de la loi sur l'air, qui restait à nos côtés. N'hésitez pas à nous appeler, sachant que nous ne pourrons pas prendre vos appels à l'antenne ce soir en raison de la grève en cours à Radio France, mais je me ferai votre porte-parole en posant vos questions à nos invités. C'est promis.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Alors, comme on ne peut pas prendre les appels, je voudrais vous soumettre la réflexion que nous fait Caroline. Elle nous écrit de Paris 20e. Je la cite. « J'ai commencé à utiliser le Vélib hier, moi qui ne fais jamais de vélo. J'ai traversé Paris très rapidement et j'ai évité l'attente, les embouteillages. Je sais pas comment on l'a fait, mais enfin. J'ai pu voir tous les paysages que je ne vois pas d'habitude et ça m'a convaincue. Je pense qu'à l'avenir, je vais privilégier le vélo, même après la grève. Que penser d'un tel témoignage ? Qui souhaite réagir, Louis Bellenfant ? Fait plaisir.
Ah oui, ça fait très très plaisir. C'est un témoignage très encourageant en fait. Ça dit que le vélo aujourd'hui, c'est possible, que le vélo est une solution de déplacement à part entière. Après, je pense qu'on peut lui dire bravo parce que c'était pas facile quand même en temps de grève de se déplacer à vélo. Il y avait beaucoup beaucoup de monde.
Et puis il y a toujours, hein, c'est pas fini. Hein, la grève continue.
Et ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup beaucoup de monde à vélo. Il n'y a pas toujours des pistes cyclables ou roulées, donc c'est pas toujours évident. Mais voilà, ce témoignage, je pense, qui montre que le vélo est une solution et il montre aussi tout ce qui reste à faire pour le vélo.
Et on en parlera. Lorelai Limousin du réseau Action Climat, comment vous réagissez quand vous lisez ce que nous dit Caroline ?
Bah, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit et c'est vrai que ça donne assez espoir parce qu'il y a plusieurs personnes qui là découvrent une nouvelle solution pour se déplacer et on espère que bah, si la grève dure au moins ça aura l'avantage de faire adopter une nouvelle pratique à un grand nombre de personnes et c'est ce qu'on a vu par le passé avec d'autres grandes grèves. Faut savoir qu'on a un énorme retard en fait dans l'utilisation du vélo et beaucoup de personnes n'osent pas faire de vélo en France. C'est la part modale des déplacements qui est faite à vélo, c'est moins de 3% en France, beaucoup moins que dans plusieurs pays européens. Donc on a un retard à rattraper et on espère que ça va s'accélérer, notamment grâce à cette actualité.
Que cette grève sera un électrochoc, Olivier Razemont ?
Oui, c'est amusant parce que j'ai entendu ces derniers jours autour de moi beaucoup de témoignages du même type, en fait, de gens qui se sont mis à vélo, qui sont pas toujours aussi enthousiastes, mais malgré tout, des gens qui découvrent et qui font comme ce que nous, qui avons l'habitude de nous déplacer à vélo autour de cette table régulièrement, nous savons depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on prend pas toujours le même itinéraire, on est parfois confronté à la circulation motorisée et c'est compliqué, on est sûr, par contre, on est à peu près certain d'arriver à l'heure, parce que le vélo, finalement, c'est un avantage énorme, c'est que ça prend peu d'espace, en fait, tout le monde insiste beaucoup et c'est normal sur les avantages en matière de pollution, mais c'est aussi en ville un avantage absolument énorme. Donc tous ces témoignages montrent qu'il est en train de se passer quelque chose. Alors très franchement, il va falloir voir, c'est-à-dire que là on est dans une situation de stress général hein, dans les transports en Île-de-France en particulier, et de stress aussi pour le vélo, c'est-à-dire pour le vélo et pour les nouvelles mobilités, il va falloir que l'infrastructure, là, elle est très sollicitée, elle est manifestement insuffisante à certains endroits, au Carrefour en particulier, donc il va falloir tirer les leçons, et je suis pas sûr par exemple qu'en 95, je vais pas se souvenir précis, qu'on ait vraiment tiré les leçons, en tout cas de cet aspect-là de cette crise, qui est l'occupation de la voirie à l'époque.
Et vous avez raison de vous tourner vers Corinne Lepage, qui était donc au gouvernement
en 95, à l'époque. Franchement, j'ai fait inscrire dans la loi sur l'air, et je pense que c'était la première en France, une disposition sur le vélo. Et nous avions, avec Anne-Marie Hydrac, qui était secrétaire d'État au transport, pris le vélo pour traverser Paris pour présenter la loi, enfin, en quelque sorte, sur ce volet-là. Mais dans les grèves de 95, personne n'a pris son vélo. Hein. Ça existe. Je ne dis pas que ça n'existait pas à l'époque.
Il y a eu une progression. Là, c'est les enquêtes qui ont été faites a posteriori montrent qu'il y a une progression sur le moment, mais je ne suis pas sûr que ça a été poursuivi. Et surtout, je ne suis pas sûr qu'on ait tiré les leçons en termes d'aménagement de l'espace. Sûrement.
Après, la progression n'était pas forcément de la même ampleur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, à Paris, c'est 2 à 3 fois plus de déplacements à vélo sur les pistes cyclables. C'est énorme. Et je regardais également les chiffres dans les Hauts-de-Seine, puisqu'ils ont des compteurs. C'est pareil, sur la Coulée Verte, c'est 2 à 3 fois plus de vélos. C'est énorme. Voilà, c'est un changement énorme par rapport à d'habitude. On voit beaucoup plus de monde sur des vélos et des gens qu'on voyait pas d'habitude. Et ça, c'est très encourageant parce que c'est des gens potentiellement qui auront pris goût, même en temps de grève, à un autre moyen de déplacement.
Alors, on va quand même dire les choses. Là, on a un discours optimiste et positif, mais très sincèrement, en tout cas pour les Franciliens qui nous écoutent, depuis la semaine dernière, c'est quand même un petit peu le chaos, Olivier Razemont. Il faut quand même dire les choses.
Ah oui, complètement. C'est très compliqué.
Dans Paris,
pas seulement dans Paris. Dans Paris, à la limite, on peut marcher. Effectivement, on peut trouver, quand il y en a des Vélib, elle a eu la chance d'en trouver un hier. Mais par contre, dès qu'on est un peu en dehors, c'est très difficile. Il y a les associations d'usagers des transports qui essayent de donner des informations très précises aux usagers, de leur dire par où passer. Mais oui, il y a 600 km de bouchons tous les jours. Faut pas oublier quand même ça.
Ça veut dire quoi? Et on va quand même aborder en deux mots cette question, que on peut laisser les transports dans cet état-là sans véritable service garanti, sans réquisition, Corinne Lepage?
Moi, je vois des personnes avec lesquelles je travaille à mon bureau hein, qui se lèvent à 4 heures le matin parce qu'elles n'ont que la solution du train ou de la voiture.
Il y a beaucoup de gens hein, qui se
et
lèvent
donc,
très tôt
elle,
en ce
elle,
moment.
Et donc, elle est au bureau, c'est une de mes assistantes, elle est au bureau à 5h moins le quart, elle repart à midi. Il y en a une autre qui est une de mes collaboratrices, elle m'a envoyé un message ce matin pour montrer qu'à 5h15, il y avait des bouchons. 5h15 du matin. Pour être en bouchon à 5h15, ça veut dire qu'il faut se lever à 4h15 ou 4h30. C'est pas viable. Alors, ça crée un stress terrible. Je ne parle même pas de la qualité du travail parce que tout le monde est crevé. Ça fait de la violence. Les images qu'on voit sur les quais de métro, très franchement, mais c'est terrible. Les gens viennent quasiment aux mains. Donc, on ne va pas pouvoir rester dans cette situation-là un temps infini. Hein. C'est pas viable.
Alors, chacun essaye de trouver sa solution. Olivier Razemont, quid de ce qu'ont fait les pouvoirs publics? Il y a eu une tentative de mettre des cars Macron dans la région parisienne, ça a fait pchit. Il y a eu aussi Île-de-France Mobilité qui a affrété des cars, on en est où de tout ça?
Alors, en fait, les cars, c'est bien, mais enfin, dans un RER, il y a 2500 personnes. Donc, dans un car, il y en a 50. Donc, c'est pas avec des cars qu'on va... Surtout comme c'était le projet du gouvernement au début, avec les fameux cars Macron, de traverser Paris. C'est pas ça dont on a besoin. On n'a pas besoin de... Non, là, en l'occurrence, on a besoin d'abord d'informations. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est qu'on a besoin de savoir, et je pense... tout simplement aux bus de banlieue. Les bus de banlieue, il y a très peu d'informations, même en temps normal, lorsqu'il y a une déviation ou des arrêts qui sont supprimés, c'est très difficile pour les associations d'usagers de savoir quels sont les arrêts supprimés. Ensuite, on a besoin de regarder tout simplement un plan autour de chez soi pour se dire, tiens, précisément, et c'est ce que commencent à faire les gens dans les Hauts-de-Seine ou en Seine-Saint-Denis, c'est bah, peut-être que, tiens, ce RER-là, il fonctionne à peu près, le A, le E depuis hier, bah tiens, on peut aller à vélo à la gare, mais à condition qu'il y ait une station sécurisée pour mettre son vélo. Donc là, on s'aperçoit que tout, pour revenir au sujet de ce soir, c'est-à-dire que tout ce qui concerne le système vélo est sollicité, et notamment les gares dans les arceaux sécurisés dans les gares de proche banlieue. Il faut savoir pour le Grand Paris Express, qui certes maintenant est très lointain, on ne sait pas très bien quand ça arrivera, et pour l'instant on ne pense pas à ça, mais aujourd'hui on prévoit dans beaucoup de gares, des 70 gares qu'on doit construire en proche banlieue, 100 à 150 arceaux au maximum aujourd'hui. On prévoit ça. Il va falloir toute la la persuasion du collectif francilien pour le vélo pour essayer de modifier tout ça?
Les gens cherchent des solutions alternatives. Il y a le vélo et on va en reparler très très largement. On voit quand même fleurir aussi le covoiturage, l'autopartage. Il y a d'autres éléments. Lorelai Limousin peut-être.
Je pense que c'est en effet aussi les événements actuels une invitation à repenser complètement notre système de transport et nos modes de déplacement. On regarde si sur les 40 dernières années, par exemple, nos temps de travail s'est significativement réduit, mais le temps de transport a beaucoup augmenté. Et donc au final, on n'a pas tellement gagné de temps libre. Et donc pourquoi? Parce qu'il y a eu un étalement urbain, parce qu'il y a eu des distances de plus en plus longues entre les lieux de travail et les lieux d'habitation, d'activité, etc. Donc il y a déjà une réflexion à avoir en matière d'urbanisme et d'aménagement, et après promouvoir le télétravail, promouvoir le partage des véhicules, le partage des déplacements, faire du transport le plus collectif possible en fait, et évidemment les mobilités actives, là on se réveille en France avec le vélo et la marche à pied, mais c'est essentiel qu'il y ait une politique volontariste à la fois de la part de l'État, des parlementaires, du gouvernement, mais aussi de la part des villes. Et donc dans l'étude qu'on a publiée cette semaine avec Greenpeace et UNICEF, on montre qu'il y a un retard vraiment très très important dans le développement des aménagements cyclables dans les villes. Et donc là, on est dans une situation d'urgence où les collectivités devraient aménager des infrastructures pour boucher les coupures urbaines, les discontinuités qu'il peut y avoir sur les itinéraires cyclables aujourd'hui. Mais il va falloir aussi investir de manière vraiment sérieuse et crédible pour faire en sorte qu'une grande partie de la population puisse passer à ce type de mobilité.
Ça veut dire que cette situation exceptionnelle, cette crise, elle nous oblige à réfléchir et que quelque part, c'est à chaque chose malheur est bon, c'est ça, Louis Bel-Enfant?
Oui, pour le coup, je pense que là, ce qui se passe en ce moment montre toute l'ampleur de ce qui reste à faire. En fait, c'est pas le tout de dire aux gens abandonnez votre voiture, mettez-vous à la marche, au vélo, en transport en commun. Parce qu'en fait, si on leur dit ça, mais qu'on leur offre pas d'alternative aujourd'hui, c'est ça. Hein, quand on vous dit mettez-vous au vélo, vous faites comment si vous avez simplement 500 mètres de piste cyclable et qu'après vous êtes sur un carrefour horrible, vous rebroussez chemin et le lendemain matin vous reprenez votre voiture et vous retournez dans les bouchons. C'est toujours mieux que de se retrouver en insécurité. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit en Île-de-France, c'est qu'on a des confettis de pistes cyclables, par-ci, par-là, mais que ça ne forme pas encore un réseau. On a un réseau pour les routes, on a un réseau pour les transports en commun, mais on n'a pas de réseau pour les pistes cyclables. Comment ils font les cyclistes sans réseau? Et c'est pour ça que nous, collectivement, avec les 33 associations du collectif Vélo Île-de-France, on porte un projet qu'on a appelé le RERV, V comme vélo, pour le coup, sur le même modèle que le RER en sous-sol, c'est de dire qu'on a aussi besoin de lignes de pistes cyclables en surface pour pouvoir faire des trajets efficaces, agréables et sécurisés partout en Île-de-France.
Ça ressemblerait à quoi votre RERV? Non mais pour qu'on imagine bien la chose.
Alors ça existe déjà à Londres, par exemple, ça existe déjà à Grenoble, Strasbourg. En fait, c'est des voies cyclables où il n'y a que des vélos, pas de piétons, pas de voitures, et où vous pouvez rouler à deux de front. Vous êtes confortable, agréable, vous vous sentez sécurisé. Et aux intersections, en fait, c'est pas une piste cyclable qui s'arrête. Parce qu'aujourd'hui, on a des pistes cyclables, mais si à chaque intersection, ça s'arrête, on n'a pas un réseau. Hein. On ne demande pas à un automobiliste, quand il veut aller sur l'autoroute, descendez de votre voiture sur ce sentier boueux, poussez votre voiture sur 200 mètres, remontez, réallumez le contact et ensuite retrouvez la bretelle d'autoroute. On ne lui demande pas ça à l'automobiliste. Pourquoi on le demande au cycliste?
Bonne question. Olivier Rasmont, cette question de la sécurité, c'est la question numéro un qui revient.
C'est la première demande. Les gens le disent. La première chose, d'ailleurs, dans le baromètre de la Fédération des usagers de la bicyclette, qui a été auquel on pouvait répondre jusqu'au 30 novembre, et dont les premiers résultats vont arriver bientôt, on voit que la première demande, c'est « je veux être en sécurité à vélo ». Alors, en fait, ça, c'est la demande. Pour la réponse, elle peut être variable. Ça peut être effectivement ce qu'on appelle les autoroutes à vélo, peu importe, les gens comprennent très bien ce terme.
Des super pistes cyclables.
Oui, bon, mais on comprend autour à vélo, c'est très clair. Ça peut être aussi tout simplement des quartiers apaisés, ça peut être des berges. Le cas, par exemple, quand on est dans le Val-de-Marne, entre Paris et le Val-de-Marne, le long de la Marne, il y a une berge qui est tout à fait faisable, où il y a aussi des piétons, mais enfin, dans l'ensemble, ça se passe très bien, parce que c'est fluide. Donc c'est ça, la sécurité. Et puis, c'est beaucoup plus ça que le fait de barder le cycliste de tout un tas d'équipements qui sont censés le rendre visible, etc. Quand il y a un accident, et que malgré le casque, malgré le gilet, malgré tout ça, malheureusement, ça se passe assez mal. Donc en fait, la vraie question, c'est d'amener la personne qui est en voiture ou en scooter à se dire, tiens, là, il peut y avoir des vélos, donc je fais attention, donc je ralentis. Donc c'est une organisation de l'espace. Et j'en profite, je reviens tout petit peu en arrière, c'est qu'aujourd'hui, on a commencé à avoir un système pour le vélo pas seulement en Île-de-France, hein, dans les grandes villes en France, un peu partout, et y compris dans les villes moyennes, dans les petites villes.
Et y compris dans les territoires hors agglomération.
Bien sûr. J'ai eu la maire de Morlaix cette semaine au téléphone qui m'a expliqué que, spontanément, elle me dit, voilà, pour les municipales, je vais aussi parler du vélo. Alors j'étais étonné parce que je ne pensais pas, mais effectivement, parce qu'elle dit simplement, ça permet qu'il y ait moins de voitures dans le centre-ville, parce qu'il y a trop de voitures aujourd'hui, il n'y a pas d'espace piéton, on n'a pas une vraie place, et là, ça permettrait d'avoir moins de stationnement, moins de voitures, et donc plus de vélos. Donc ça, c'est ce qu'elle dit. Bon, je reviens à ça, il n'y a pas de système covoiturage, en revanche. Ça fait 4 ans que la région Île-de-France dit qu'elle va, 4 ans jour pour jour en plus, je crois, qu'elle va mettre en place, faire utiliser les routes en Île-de-France, parce que les routes sont finalement très peu utilisées, il y a des voitures, mais avec une personne dedans seulement. Donc il faut un système covoiturage. Donc ils disent, on va faire des voies réservées. Sauf que ces voies réservées n'ont toujours pas vu le jour. Alors la région dit que c'est la faute de l'État, l'État dit que c'est pas toute sa faute, mais que la région y est pour quelque chose. La semaine dernière, il y a exactement une semaine, au moment où là, on a compris que la grève allait continuer, le ministère des Transports a dit, on va faire des voies de covoiturage réservées sur les voies les bandes d'arrêt d'urgence. Ça n'a rien donné par définition, parce qu'il faut un système. Il faut que la voie covoiturage, elle soit d'un bout à l'autre. Il faut qu'elle passe par les autoroutes, qu'elle arrive à des parkings, avec des parkings réservés au covoiturage, et qu'il y ait au moins 3 personnes dans les voitures. Et quand on fait ça, ben, je vous assure que quand les gens verront que sur la voie de gauche, on peut passer plus facilement quand on est à 3 dans la voiture, ben, très vite, ils trouveront des partenaires de covoiturage.
Alors, je voudrais quand même vous citer quelques messages qui nous arrivent, puisqu'on ne peut pas prendre les personnes au standard de France Inter. Florian de Gex, je suis cycliste depuis des années. Ça m'arrange bien en temps de grève, de plus en plus de cyclistes, mais très peu de pistes cyclables. Nous ne sommes pas tous en sécurité. Parfois, c'est vraiment très dangereux de mélanger automobilistes et cyclistes. Et puis, Christian de Lille, automobiliste en colère, lui. Je suis automobiliste, révolté que les personnes à vélo ne respectent ni les feux ni les trottoirs, s'adressent les usagers les uns contre les autres. Lorelai Limousin, il y a un problème de cohabitation ?
Il y a un problème de cohabitation, puis aussi un problème de, il y a trop de place en fait qui a accaparé par l'automobile dans les villes françaises, et l'espace public est quand même largement occupé pour l'automobile, donc ça n'encourage pas à se passer de la voiture nécessairement. Donc quand on parle d'infrastructures cyclables, il va falloir aussi rééquilibrer le partage de l'espace public en prenant de l'espace de la voiture. Et donc c'est malheureusement ce qu'on ne voit pas se passer aujourd'hui dans la plupart des villes. Donc là, dans notre étude par exemple qu'on a faite sur les 12 plus grandes agglomérations de France, on a regardé ce qui s'est passé ces 5 dernières années pour lutter contre la pollution de l'air liée au transport routier. Parce que je rappelle qu'il faut aussi réduire la place de la voiture, c'est que la voiture c'est la première responsable des émissions à la fois de polluants de l'air liés au transport routier et des émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent le climat. Donc nécessairement, pour ralentir le réchauffement climatique, il faudra diminuer l'utilisation de la voiture. Et le plus simple, c'est déjà de commencer en ville, dans les plus grandes agglomérations, où les déplacements sont encore faits dans une grande partie en voiture, alors qu'ils font en moyenne 3 à 5 kilomètres. Donc c'est problématique, et ça pourrait être fait autrement s'il y avait des infrastructures cyclables. Donc je rejoins la nécessité d'avoir des réseaux cyclables. On a donc étudié ça dans ce qui s'était passé ces 5 dernières années dans les villes, mais on a aussi étudié qu'est-ce qui a été fait pour diminuer la place de la voiture. Est-ce qu'il y a eu des piétonnisations ? Est-ce qu'il y a eu la baisse des vitesses pour sécuriser aussi, apaiser la circulation de manière à sécuriser les autres usagers de l'espace public ?
Corinne Lepage.
Oui, je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour apprendre à vivre ensemble. C'est vrai que la voiture a été la reine dans les villes pendant des années et des années. Je rappelle quand même que Georges Pompidou, alors les plus jeunes d'entre vous, ça vous dit pas grand-chose, disait qu'il fallait adapter la ville à la voiture. C'était quand même les voies sur berge, c'était cela. Bon. Donc il y a de très mauvaises habitudes qui ont été prises. Aujourd'hui, effectivement, il y a des transformations. À Paris, il y en a quand même, elles sont quand même notables, même si c'est pas parfait, si on peut faire mieux, il y a quand même beaucoup de choses faites en faveur du vélo, mais ça implique aussi des modifications dans le comportement des automobilistes, parce que vous ferez de toute façon jamais en sorte que tout le monde prenne un vélo. Vous avez des personnes âgées qui ne peuvent pas, vous avez des bébés dans des poussettes. Enfin,
personne ne dit ça.
Bon. Et donc, il faut que chacun apprenne à respecter les autres. Et ça, c'est une éducation. C'est une éducation à faire parce que, effectivement, les automobilistes sont frustrés parce qu'ils ont l'impression qu'on leur retire quelque chose et les vélos considèrent qu'ils n'ont pas encore suffisamment de sécurité pour eux. Et je ne parle pas des motos qui est encore un troisième problème qui n'est pas toujours simple à régler non plus, les motos. Donc voilà, je pense que c'est une nouvelle forme de civisme qu'il faut essayer d'inventer pour que le partage de l'espace public se fasse de manière apaisée. Effectivement, d'avoir des voies à 30 à l'heure, c'est quelque chose qui est pas mal, parce que l'automobiliste, forcément, il ralentit, forcément, il y a plus de sécurité pour les automobilistes. Et voilà, je pense que c'est des choses qui sont importantes. Et puis c'est vrai que de toute façon, il y aura moins de voitures en ville. C'est inévitable. Mais la pollution, à laquelle je me bats beaucoup, est un argument. Mais c'est pas le seul, parce c'est que sûr. Vous allez avoir de plus en plus de voitures électriques. Et l'argument pollution sur voiture électrique, ça marche pas. Donc c'est aussi une forme d'encombrement. Donc il faut voir aussi cet aspect-là.
Voilà, civisme, respect des autres pour les automobilistes, mais pas que. Hein. Moi, je vous lis ce que nous dit Nicolas à Marseille. À Marseille, il est presque impossible de circuler à vélo. Une piste cyclable vient d'être ouverte sur la corniche Kennedy. Problème, elle est encombrée de trottinettes électriques. Olivier Razemont.
Oui, à Marseille, il y a quelques trottinettes électriques. À Lyon, il y en a quelques-unes, enfin, un peu plus que quelques-unes quand même. À Paris, c'est assez étonnant. Je suis pas retourné à Marseille parce que n'ayant plus de train là depuis quelques jours, donc j'ai pas pu y aller récemment, j'ai pas pu voir. Mais simplement à Paris, c'est assez étonnant de voir que on en avait énormément au mois de juin. Et ça a beaucoup, non pas baissé, mais la proportion par rapport aux autres usagers des pistes cyclables a quand même complètement changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une grande majorité de vélos, alors qu'il y a 6 mois, c'était quand même, il y avait beaucoup de trottinettes en proportion. Et en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont rendus compte que les trottinettes, d'abord, elles ont été bridées à 20 km/h, finalement, les gens se sont rendus compte que c'était pas très pratique, voilà, parce qu'on peut pas, quand on est sur une trottinette, on peut pas lever le bras, il faut tenir, c'est pas très stable en fait, c'est un peu comme
c'est
faire du monoski. Donc le vélo, on utilise ses 4 membres. Donc à un moment, les gens se sont rendus compte que c'était quand même plus stable. Et quand on voit ce qui c'est très très intéressant, on a une situation de stress qu'on a en ce moment, de regarder ce qui se passe. Et quand on voit essentiellement des vélos, un peu de tout type de vélos, pas seulement essence électrique, parfois effectivement assez mal équipés, mais les trottinettes aujourd'hui, même s'il y a une progression de la pratique ces derniers jours par définition, elles sont minoritaires. Et très franchement,
vous êtes en gros en train de me dire que la mode est presque
passée. Oui, si j'avais un pari à faire, je pense que dans 2 ans, on en parlera beaucoup moins.
Alors que le vélo, on en parlera beaucoup. c'est ce que vous semblez souhaiter, Louis Bellenfant. Michel de Draguignan, que faire pour éviter que l'on se fasse voler son vélo? Ça dissuade d'en acheter un. C'est une vraie question, ça.
Oui, on a beaucoup parlé de la sécurité, mais en fait, le deuxième frein à la pratique du vélo, c'est le vol. En fait, si vous faites voler votre vélo une fois, souvent, vous y retournez pas. Voilà. Et ça, c'est dommage. On perd beaucoup de gens à cause du vol. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas tout essayé contre le vol de vélo. Je pense notamment au niveau des gares. C'est un vrai sujet. On peut pas encore laisser son vélo en gare de manière sécurisée quand on va prendre son métro, son RER, son train. Et les projets là qui se profilent, je pense notamment en Île-de-France, Olivier Razon a parlé du Grand Paris Express, c'est pas encore suffisant. Je pense également à la gare du Nord, on parle de 2000 places vélo dans la plus grande gare, enfin celle qui accueille le plus de trafic en Europe. Par comparaison à Utrecht, aux Pays-Bas, c'est une ville de 350 000 habitants, il y a 12 500 places pour le vélo. Voilà, et c'est sécurisé. Donc en fait, on a ce problème-là, et on a également le problème dans l'habitat ancien, où est-ce qu'on met son vélo? Voilà. Et ça, on n'a pas encore résolu cette question-là.
Alors visiblement, dans la loi LOM, moi j'ai vu que pour lutter contre les vols, il y aura un marquage obligatoire à partir de 2021, c'est bien ça. Bonne idée, oui. Pas bonne idée, Lorelai Limousin, oui?
Oui, ça peut contribuer.
Ça empêchera pas forcément les vols, permettra de les retrouver.
Ça contribuera peut-être à diminuer un peu.
C'est pour les vélos neufs. Pour les vélos neufs. On conseille vraiment déjà énormément aux gens de faire ça dès maintenant, c'est possible de le faire. En fait, ça permet de les retrouver le cachant si la police est concernée. Ça permet aussi d'éviter le vol, parce qu'en réalité, lorsque les gens commencent à savoir que ça existe, s'ils voient un vélo marqué, ils se disent, tiens, bon. Mais le principe, les vols, 60% des vols se produisent à domicile. Et donc, en fait, il faut aussi se dire à chaque fois les gens, je leur dis, s'ils sont en train de se dire, tiens, je vais prendre un vélo en ligne, l'acheter dans une bourse au vélo ces jours-ci, acheter aussi un antivol. Il n'est pas impossible que l'antivol vous coûte plus cher que le vélo. Mais c'est pas grave, parce que ça vous permettra de le garder. C'est la première chose à faire, c'est acheter un bon antivol, un U. Enfin, il faut le dire à un moment,
et les
associations FUB le disent tout le temps. Il faut bien l'attacher, il faut attacher le cadre, etc. Il faut éventuellement l'antivol de cadre. C'est des choses qui semblent un peu bêtes, mais c'est très important d'avoir ces éléments-là. Et puis, il faut savoir ce qu'on va faire quand on se le fait voler. Et moi, la réponse que je me suis donnée, c'est j'en rachète un.
Petite question à propos des aides, parce qu'on a parlé de la sécurité, du vol du vélo. Le forfait mobilité, qui veut nous en dire un petit mot, Louis-Bellenfant?
Le forfait mobilité durable qui n'est pas obligatoire.
C'est pas obligatoire, c'est ça. Non, ça permet éventuellement aux employeurs de verser 400 euros par an, c'est ça?
Oui, c'est ça, mais ça sera optionnel. Pour le coup, ce qu'on a vu, c'est qu'avant, son ancien nom à ce forfait mobilité durable, c'était l'indemnité kilométrique vélo. Pareil, c'était facultatif, mais lorsqu'elle était mise en place dans les entreprises test, en fait, il y avait une vraie incitation à se mettre à vélo et il y avait un effet. Il y avait plus de personnes qui venaient à vélo grâce à cette aide, en fait. Voilà, donc l'expérience, elle est positive. Le choix qui a été fait a été de ne pas rendre obligatoire ce forfait mobilité durable.
Voilà. C'est un choix qui a été fait.
France Inter. Le téléphone sonne.
Alors, je voudrais qu'on s'arrête, L'Oréal et Limousin, deux secondes quand même sur cette enquête que vous avez rendue publique cette semaine, ce classement des villes pour ce qui est du vélo. Un trio de tête, Strasbourg, Grenoble, Paris, c'est ça? De villes,
alors,
c'est plutôt agréable.
On a étudié 17 indicateurs sur la lutte contre la pollution automobile et les solutions mises en place pour la mobilité durable. Donc il y a 6 thématiques. Donc le vélo fait partie des 6 thématiques, mais c'est pas la seule. Et le classement global montre qu'en fait, aucune ville n'a pris une mesure suffisante pour réduire vraiment efficacement la pollution de l'air liée au transport routier. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire pour à la fois réduire la place de la voiture, sortir du diesel et de l'essence et promouvoir les transports en commun, le covoiturage, le vélo. Prendre en compte aussi le public des enfants qui est particulièrement vulnérable face à la pollution de l'air et qui mérite en fait des mesures particulières, notamment encourager leur mobilité active avec une piétonnisation aux abords des écoles, un accompagnement sous forme de pédibus, de vélobus. C'est des choses qui émergent dans les villes moyennes, dans les grandes villes, mais vraiment pas à une échelle assez significative pour enclencher une transformation, une métamorphose du système de transport. Et donc sur le vélo, enfin sur le classement global, ce qui se distingue, c'est quand même qu'on a Paris, Strasbourg et Grenoble qui ont fait des efforts, enfin le plus. Ensuite, on a tout un groupe de 6 villes, Lille, Bordeaux, Toulouse, Rennes, Nantes, Lyon, qui sont encore très timides. Et puis, on a 3 villes qui sont vraiment retardataires.
Les bonnets d'âne. Hein.
C'est voilà, Marseille, Nice et Montpellier, à la fois parce qu'elles n'ont pas pris assez de mesures sur la lutte contre la pollution automobile et pour les alternatives. Et sur le vélo, il y en a vraiment que 2 qui se distinguent sur les 12. C'est Grenoble et Strasbourg. Même si on souligne que tout n'est pas encore parfait dans ces villes-là non plus sur le vélo, mais on a regardé 4 indicateurs. Est-ce qu'elles ont commencé justement à mettre en place un réseau express vélo? Et donc c'est le cas dans ces villes. Est-ce qu'elles ont un budget vélo significatif par année et par habitant? Et là, en l'occurrence, c'est pas forcément les villes qui se distinguent le plus sur cet indicateur précis. On a regardé combien il y avait de stationnements disponibles par habitant dans ces grandes agglomérations. Et enfin, combien il y a de vélos en libre-service, parce qu'on sait que c'est un service qui a été mis en place dans toutes les métropoles ces 10 dernières années, voire plus.
Un mot quand même, Louis Bellenfant, sur le pourcentage de déplacements qui se font à vélo dans les deux villes où on se déplace le plus à vélo, Grenoble et Strasbourg, c'est quoi? 15-16%?
C'est 15-16%. C'est quand même pas mal. C'est assez intéressant de voir que Grenoble aujourd'hui talonne Strasbourg, qui était vraiment en avance sur le développement du vélo. Mais pour le coup, on peut aussi citer Bordeaux, qui se retrouve quand même aujourd'hui dans le peloton de tête du vélo. Ça montre en fait qu'il n'y a pas de couleur politique pour le vélo, hein, parce que pour le coup, on parle de villes aussi bien dirigées par des maires de gauche que des maires de droite. Bordeaux, par exemple, aujourd'hui, a probablement un des aménagements cyclables les plus empruntés de France, le pont de Pierre, qui était autrefois pour les voitures, les piétons et les vélos. On a retiré la circulation automobile. Et quand il a été question de savoir est-ce qu'on rouvre ou pas ce pont de Pierre aux automobiles, la réponse a été non. Et aujourd'hui, c'est un des aménagements les plus empruntés en France par les cyclistes.
Voilà, enfin 15 ou 16%, Olivier Rasmont, dans le meilleur des cas pour les deux villes citées. Aux Pays-Bas, les transports du quotidien, 36% à vélo. Oui. À Copenhague, maintenant, plus de déplacements à vélo qu'en voiture.
C'est autour de 40 ou 45, je ne sais plus, oui. Et on cite toujours ces pays. Dans le nord de l'Italie, il y a beaucoup de villes où on est à 20-25% de déplacements à vélo. Pour une raison simple, c'est qu'on a mis en place les zones à trafic limité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on dit en gros, vous avez des espaces assez vastes dans la ville, dans lesquels on ne laisse en voiture que les gens qui y vivent, que les commerçants, les livreurs, etc. Et donc, ça limite. Alors, les gens connaissent bien en France quand ils vont en voiture dans ces villes, parce qu'on prend des prunes, parce qu'il y a des caméras, en fait. Mais en fait, l'avantage, c'est c'est qu'il y a beaucoup moins de voitures. Et quand il y a beaucoup moins de voitures, ça devient d'abord, premièrement, les gens se déplacent, donc ils prennent les transports, et puis une bonne partie vont à vélo. On voit d'ailleurs tout un tas de gens de tout type, quel que soit leur âge, à Pavie, à Bologne, sur leur vélo pour aller faire des courses, etc. Et donc ça devient aussi plus agréable, ça rend les villes plus agréables. Et je dois dire que je crois beaucoup plus à ce système-là qu'à la zone à faible émission, qui est très mise en avant dans l'étude qu'a présenté le RAC.
Je sais,
mais je trouve que la zone à faible émission, qui est l'invention française pour, en disant, en gros, on fait des zones dans lesquelles on pollue moins, et ne pourront rentrer que non pas les véhicules qui sont utiles, c'est-à-dire les véhicules qui sont utiles pour les gens qui y vivent, mais les véhicules qui sont les moins polluants, c'est-à-dire en fait les plus chers probablement, les plus récents, donc les plus chers, donc en fait les véhicules les plus riches. Bon, premièrement c'est un peu étrange, et deuxièmement c'est inapplicable parce qu'en fait, par exemple, dans la ZFE, zone à faible émission la plus aboutie, c'est la métropole du Grand Paris, il y a absolument zéro contrôle depuis qu'elle est mise en place. Donc, et parce qu'il y a ni moyens, ni volonté, etc. Donc, je suis un peu méfiant de ces grandes innovations qui sont censées tout régler un peu à la française, alors que le système italien qui consiste à regarder pragmatiquement comment ça fonctionne me semble. Il y a des ZTL, hein, zones de trafic limité, il y en a aussi à Nantes, il y en a aussi aux Pays-Bas, il y en a dans des villes allemandes. Mais voilà, ça me semble plus efficace.
Alors, juste peut-être une question sur la façon d'avancer, d'aller plus loin. Qui doit faire quoi, le rôle notamment des élus? Je voudrais juste vous soumettre ce que nous a écrit Camille Thomé, la directrice de Vélo et Territoire, qu'on aurait pu avoir au téléphone, mais enfin bon, on n'a pas de standard ce soir. La France à vélo deviendra réalité en 2030, nous écrit-elle, grâce à l'engagement des collectivités. Il faut l'engagement d'élus qui plaident cette cause au sein des assemblées oui. territoriales. Corinne Lepage, c'est indispensable d'avoir des élus impliqués.
Ça se passe, très franchement. Je suis assez d'accord, vous disiez tout à l'heure que vous ne croyiez pas trop à la loi. Nous, en France, on croit que parce qu'on a voté une loi, c'est réglé. Mais pas du tout. C'est le début de l'histoire. Et ça dépend des décrets d'application qui viennent ou qui ne viennent pas, et de la manière dont les décrets d'application sont appliqués ou pas. Donc tout ça est très aléatoire.
C'est Madame Lepage qui le dit, qui a quand même fait la première loi
en 1986. Oui, parce que justement, je sais ça, j'ai appris ça. Donc moi, je crois beaucoup à la volonté des élus locaux. Parce que aussi il y a une demande sociale. Sinon, les élus locaux, ils ne le feraient pas. Mais je crois beaucoup que c'est au niveau des villes que ça peut se faire, et des intercommunalités, parce qu'effectivement, il faut une continuité. C'est extrêmement important. Si vous êtes dans une ville, que celle d'à côté, elle est anti-vélo, et que vous avez besoin d'y aller, vous faites quoi? Faites rien. Donc voilà, je crois que c'est là que ça se passe, et de donner les compétences et les moyens aux villes pour pouvoir mener à bien des politiques vélo, ça me paraît extrêmement important et efficace.
Le plan vélo présenté l'an dernier, utile, efficace ou pas, Louis Bellenfant?
Alors, à propos de ce plan vélo, moi, j'ai envie de regarder derrière. Il y a quelques années, on ne parlait pas beaucoup de vélo. On n'en parlait pas forcément comme un mode de déplacement sérieux à part entière. Et là, avec ce plan vélo...
Il a au moins le mérite d'exister et de faire parler du vélo, c'est ça?
Pour le coup, c'est le Premier ministre en personne qui vient annoncer le plan vélo. Et la ministre des Transports dit que le vélo est une solution de transport. Ça, c'est nouveau. Rien que dans le discours, on a une évolution. Après, il y a des mesures. Il y a le savoir rouler à l'école, il y a un fonds pour résorber les discontinuités cyclables, il y a le forfait mobilité durable dont on a parlé... C'est une avancée. Est-ce qu'il faut plus? Sûrement. Il faut toujours plus sur le vélo. On est en phase de rattrapage. Aujourd'hui, en France, on est allé très, 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 très loin dans le tout voiture. Là, la question aujourd'hui, c'est comment on revient progressivement à des villes plus agréables à vivre, des villes plus vivables, en fait. Et là, cette phase de rattrapage, on fait que la commencer et ça va prendre un peu de temps et on n'a pas beaucoup de temps, donc autant aller vite. Et là, c'est une question de volonté politique, effectivement. Mais ce qui me rassure, c'est que là, en période pré-municipale, on voit parler de plans vélo un peu partout. On a parlé des bonnets d'âne là, du classement du RAC. Mais par exemple, Marseille, Montpellier, qui était vraiment en queue de peloton, aujourd'hui annonce également des plans vélo. Et ça, c'est une nouveauté.
Lorelai Limousin, la priorité des priorités pour vous, ce serait quoi aujourd'hui?
Justement, je pense qu'il y en a plusieurs parce qu'on a, enfin, on accuse d'un tel retard sur la mobilité durable que il faut à la fois justement mettre en place ces zones à faible émission. Enfin, c'est juste pour rappeler qu'en fait, on est en contentieux sur la pollution de l'air. Donc, on va payer des amendes. La Cour de justice de l'UE a condamné la France et ces amendes, elles vont être partagées entre l'État et les villes. Donc les villes ont aussi la responsabilité de prendre des mesures pour nous protéger de la pollution de l'air. Donc les zones à faible émission, pour nous, c'est qu'un seul des outils, mais il est nécessaire pour s'assurer qu'on n'ait plus de carburant cancérigène, du diesel qui circule en ville, parce que on parle de villes agréables, mais il faut aussi qu'elles soient respirables. Et donc ça fait partie de la palette de solutions, mais évidemment, les zones à trafic limité, c'en est une autre, le développement du vélo, c'en est une autre, et en fait, c'est combiner, mieux rééquilibrer toutes les options de déplacement qui nous permettront d'avoir des villes à la fois plus agréables, mais aussi plus actives contre l'urgence climatique, contre l'urgence sanitaire liée à la pollution de l'air.
Voilà, une petite question au passage, Patrick de Lyon. Est-ce que faire du vélo dans une circulation monstre, c'est pas dommageable pour la santé? Qui veut répondre? Louis Bellenfant, rapidement, parce qu'il est déjà 56.
Alors, pour le coup, je vais répondre. Les bénéfices du vélo sont tels que même quand vous êtes en période de pollution, il faut attendre très très longtemps pour que les effets néfastes les dépassent. Là, on respire le plus mal, c'est encore quand on est enfermé dans sa voiture, en circuit fermé sur les pots d'échappement de son voisin de devant.
Donc évidemment, juste pour les personnes asthmatiques, c'est mieux d'éviter.
Mais
j'ajouterais qu'il vaut mieux être en fait sur le côté. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des études qui montrent que quand on est en plein dans la circulation, c'est risqué. Par contre, quand on est déjà sur une piste séparée, on respire beaucoup mieux.
Olivier Razemont, pour vous, une question de Marion de Paris. Pourrait-on envisager une circulation par voie fluviale? Là, on quitte le vélo, encore qu'on pourrait peut-être emmener son vélo sur le bateau. Il y a des endroits où ça se fait. Ça pourrait régler le problème des bouchons, non?
À Paris, non. En Île-de-France, oui. À Paris, non, parce qu'il y a des ponts. C'est tout bête. À Paris, non, parce qu'il y a du courant sur la Seine. C'est tout bête. Et qu'en fait, quand on a essayé de faire une navette comme ça qui allait dans le Val-de-Marne, en réalité, elle allait moins vite que le RER et que le métro. Il y en avait à ce moment-là. Par contre, en Ile-de-France, oui, à certains endroits précis, pour passer du RERC au RERD à Juvisy, par exemple, des choses comme ça, des endroits très précis, ça peut, mais ça ne va pas résorber seul le bouchon.
Une question de Yann de Fontainebleau. Je suis handicapé, je rêverais de voyager à vélo. Comment le vélo peut-il s'adapter aux personnes en situation de handicap? Ça existe? Il y a des vélos adaptés?
Oui, il y a des vélos adaptés, mais qui ont un coût. Et pour le coup, moi, je reçois souvent à la Maison du Vélo des appels de personnes qui cherchent à faire financer leur projet parce que ça a un coût, en fait, d'acquérir un vélo adapté. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'aide pour le moment.
Bénédicte qui nous dit « Je me suis mise au vélo dans Paris pendant la grève de 1995, je n'ai jamais arrêté. Depuis, je l'utilise pour mes rendez-vous pour aller au travail et j'ai gagné encore plus de temps récemment avec de nouvelles pistes cyclables, Olivier Razemont.
Ben oui, super.
Oui.
Alors, il y a quand même un problème au carrefour avec ces pistes cyclables et ce serait pas mal qu'il y ait quelques agents, peu importe de la ville de Paris, qui viennent sécuriser, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que les voitures s'engagent, même quand c'est rouge, du coup elles bloquent le carrefour, y compris pour les pistes cyclables, du coup les vélos savent pas quoi faire, donc d'où une partie des incivilités, ils passent sur le trottoir, etc. etc. La SNCF envoie dans les gares ses cadres habillés en rouge, peut-être que la ville de Paris pourrait envoyer quelques agents, quelques-uns des cadres pour régler la circulation au carrefour.
Lorraine Limousin, mais vous avez vraiment 5 secondes.
Juste rappeler qu'on est à moins de 100 jours des municipales et qu'il y a plein d'associations qui s'activent, que ce soit les associations de la FUB, celles de Greenpeace, pour vraiment faire en sorte que les candidats justement s'engagent sur la promotion de ces solutions.
Et que ça sera un thème de cette campagne des municipales. Olivier Razemont, 5 secondes, la priorité pour vous?
Que les candidats s'engagent justement et que tout le monde et que chacun qui aujourd'hui découvre le vélo dise aux candidats, regardez, il nous faut des choses sécurisées.
Louis Bellenfant, partagez ce point de vue.
Oui, les municipales, c'est un enjeu crucial. Il nous faut les promesses les plus ambitieuses possibles sur
le
vélo.
On a fini, Corinne Lepage. Je suis obligée de vous dire au revoir. Une fois, merci d'avoir participé à ces 2 heures d'émission. Juste, je vous cite Jean-Michel de Paris pour terminer. 240 000 km de vélo en 30 ans. J'ai fait l'équivalent de 6 fois le tour de la Terre. Je peux vous dire que grâce à ça, je tiens la forme. C'est la fin. C'est le mot de la fin.